VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonsoir à tous. Merci de nous suivre sur VOA Afrique. Conflit au Soudan du Sud. Le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar se sont rencontrés aujourd'hui dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Des négociations dites de la dernière chance puisque les deux rivaux ont jusqu'au 5 mars pour trouver un accord de paix. L'ultimatum lancé par les pays est-africains médiateurs du conflit expire dans 48 heures. Dans le même temps, les Nations Unies ont adopté une résolution qui prévoit des sanctions contre les belligérants du Soudan du Sud. D'après l'AFP, le Conseil de sécurité se donne la possibilité de geler les avoirs de ceux qui menacent la stabilité du pays, se rendent coupables d'exactions ou entravent l'aide humanitaire et de leur interdire, bien entendu, de voyager. En Côte d'Ivoire, le parquet général a requis aujourd'hui 10 ans de prison contre l'ex-première dame Simone Gbagbo, accusée notamment de participation à un mouvement insurrectionnel durant la crise post-électorale de 2010-2011 qui, vous le savez, a fait plus de 3000 morts. Claire Morin-Gibou.
Entourée de ses avocats, la dame de fer est restée impassible à l'écoute des accusations de l'avocat général Simon Yabo Odi. Simone Gbagbo a bel et bien participé à la constitution de bandes armées à Abobo qui ont pris part à un mouvement insurrectionnel, a-t-il déclaré, ajoutant que l'ex-première dame était aussi accusée de troubles à l'ordre public. L'avocat général a requis 10 ans de prison contre Simone Gbagbo. Redoutée dans son rôle de présidente à poigne, elle était souvent accusée d'être liée aux escadrons de la mort contre les partisans d'Alassane Ouattara, élu président fin 2010. 82 personnes sont jugées avec elle depuis fin décembre pour des faits regroupés sous le chef d'accusation d'atteinte à la sûreté de l'État durant la crise de 2010-2011. L'avocat général a également demandé 5 ans d'emprisonnement pour Michel Gbagbo, le fils de l'ex-président Laurent Gbagbo, coupable selon le parquet d'atteinte à l'ordre public et de participation à un mouvement insurrectionnel.
Le Haut Commissariat aux réfugiés annonce aujourd'hui que la dernière vague d'attaques des combattants islamistes de Boko Haram au Nigeria a entraîné la fuite en quelques jours vers le Cameroun voisin de 16 000 personnes. Le HCR dit collaborer avec le gouvernement camerounais pour reloger les rescapés le plus rapidement possible. Les grandes lignes du rapport du HCR avec Salwa Jafari.
L'hémorragie semble de plus en plus aiguë. Des milliers de personnes jetées sur la route de l'exode. 16 000 sont déjà arrivées à destination tout au long de la frontière avec le Cameroun, à Makari, Logone, Birni, Fotokol, au sud du lac Tchad. Sur place, le HCR tente tant bien que mal de trouver des logements aux réfugiés. Sur le site de transit Kousseri, par exemple, à 90 km de la frontière au nord de Manao. Sur le terrain aussi, le gouvernement camerounais, le Programme alimentaire mondial et autres organisations fournissent une assistance d'urgence. Les convois de déménagement de la frontière à Kousseri vont commencer demain. Rappelons que le Cameroun n'est pas la seule destination de ces victimes de guerre. Plus de 100 000 personnes ont trouvé refuge au Niger dans les deux dernières années et quelques 18 000 ont choisi le Tchad depuis janvier.
À Bruxelles, l'appel des leaders des États africains les plus touchés par l'épidémie d'Ebola en faveur d'un plan Marshall de la communauté internationale pour aider leur pays à se relever au plan économique. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone comptent présenter un projet régional en ce sens lors de la réunion en avril de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, a déclaré le président guinéen Alpha Condé à Conakry. Il est 17h03:47.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En République démocratique du Congo, l'opposition congolaise a déposé aujourd'hui à la Commission électorale nationale indépendante sa proposition de calendrier pour les scrutins à venir, estimant que l'institution a établi un chronogramme impossible à tenir. Le vice-président a reçu la délégation de plus ou moins 25 personnes et a promis de soumettre à la plénière ce document, selon une source à l'intérieur de la commission citée par l'AFP. L'opposition n'a pas de récrimination contre le calendrier général des élections présidentielles, mais par contre, La CENI prévoit au courant 2015 et 2016 des élections locales complexes encore jamais organisées dans le pays et qui pourraient retarder le calendrier global de la CENI, risquant aussi de prolonger illégalement le mandat du président Joseph Kabila. Menace de grève générale jeudi au Burundi. La menace est brandie par un collectif contre la vie chère qui demande la baisse du prix de l'essence, le renoncement à la nouvelle taxe sur la communication. Le président Nkurunziza a appelé les membres du collectif à sursoir à ce mouvement de grève et à participer ensemble à la recherche d'une solution pour tous. Mais le collectif, qui a déjà écrit deux fois au chef de l'État burundais, a regretté une réponse tardive et insuffisante. Les magistrats centrafricains sont en grève de 3 jours depuis hier. Les juges de la RCA réclament le paiement de primes de responsabilité et des frais d'évacuation sanitaire. On écoute le président du syndicat des magistrats de Centrafrique, Parfait Rodrigue Yangendja.
Le 15 juillet 2014, la chef de l'État de transition avait signé une série de décrets accordant des indemnités de responsabilité aux magistrats centrafricains. Les magistrats, dans leur traitement, n'ont jamais eu d'indemnités de responsabilité et ce n'était que justice que cela soit pas rétabli. On a été patient, on a attendu jusqu'au mois de janvier. Et au mois de janvier, on a encore été assez patient parce qu'on s'est dit qu'il y avait un 12e provisoire qui avait été voté par l'an provisoire pour gérer les affaires de l'État. Et dans le traitement du salaire du mois de février, on s'est rendu compte que ces indemnités n'ont pas été prises en compte, quand bien même le budget 2015 a intégré, n'est-ce pas, ces indemnités-là dans l'exécution, n'est-ce pas, donc de la loi des finances 2015. C'est ainsi que nous avons mené des démarches au niveau des finances. N'ayant pas reçu de bonnes réponses, nous avons déposé un préavis de grève depuis le 19 février 2015 à l'intention du gouvernement, à savoir notre chef du département. Et lors de l'Assemblée générale d'hier, nous avons tiré les conséquences de ce que nos revendications n'ont pas eu gain de cause. Et donc nous avons donc décidé d'observer un arrêt de travail de 3 jours.
Le juge centrafricain Rodrigue Yegenja. Au Mozambique, un universitaire franco-mozambicain expert en droit constitutionnel et proche de l'opposition a été tué par balle ce mardi par des inconnus à Maputo. D'après l'AFP, Gilles Sistak a été pris pour cible sur l'une des artères principales de la capitale ce matin, alors qu'il rejoignait à pied un café où il se rend très souvent. En Libye, les forces loyales au général Khalifa Haftar ont mené aujourd'hui des raids aériens contre un aéroport de Tripoli aux mains de leurs rivaux de Fajr libyens en représailles de raids de miliciens contre un terminal pétrolier. Cette offensive intervient au lendemain de la nomination du général Haftar à la tête de l'armée loyale au Parlement reconnu par la communauté internationale.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Un an après la disparition du vol 370 de Malaysia Airlines, peu après son décollage de Kuala Lumpur, l'incertitude plane toujours sur le sort de l'appareil qui a disparu des écrans de radar à 2h40 du matin. Camille Gros-Didier.
Les recherches pour retrouver les restes de l'appareil ont duré des mois, couvrant plus d'un million de kilomètres carrés dans le sud de l'océan Indien. Elles n'ont rien donné. Celles menées dans une zone moindre, là où les experts pensent que l'avion s'est peut-être abîmé, n'ont pas abouti pour l'instant et devraient s'achever en mai. En février, la Malaisie a parlé pour la première fois d'un accident, ouvrant ainsi la voie à l'indemnisation des familles. Mais cela a suscité un tollé au sein des familles à la fois à Beijing et en Malaisie même. Un rapport final doit être publié cette semaine. Parmi les parents des victimes, Sarah Bashk, dont le partenaire Philip Wood a disparu, les autorités ont été incapables de prouver quoi que ce soit, se plaint-elle. Elles ont évoqué un piratage aérien et maintenant elles se rabattent sur la théorie d'un accident. La majorité des passagers du vol MH370 étaient des Chinois. Leurs familles exigent toujours des réponses concrètes, d'autant qu'elles ont fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des autorités chinoises. « Nous voulons la vérité », insiste Steve Wang, dont la mère a disparu.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, très opposé aux négociations actuelles sur le programme nucléaire controversé de l'Iran, a affirmé ce mardi que le monde se porterait mieux sans le très mauvais accord avec Téhéran que les puissances occidentales tentent de sceller. Mes amis, pendant plus d'un an, on nous a dit qu'aucun accord était préférable à un mauvais accord. C'est un mauvais accord, le monde se portera mieux sans lui, a déclaré M. Netanyahou. Et puis, la Maison-Blanche a annoncé que le président Obama participerait ce mardi avec des dirigeants européens européens, dont le président français François Hollande, l'allemande Angela Merkel et le britannique David Cameron, à une vidéoconférence consacrée à la crise en Ukraine et à la sécurité mondiale. Le premier ministre italien Matteo Renzi et le président du Conseil européen Donald Trump doivent également participer à ces entretiens qui se dérouleront à huis clos.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.